vers la fraîcheur du courant. Quand vient la chaleur, l'épreuve, l'angoisse, son feuillage reste vert, sa foi et son espérance, son courage intact. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude. Il ne manque pas de porter son fruit d'amour et de fraternité. Je vous invite maintenant à chanter toujours le cantique 153 et la strophe 3.
Asseyez-vous. Nous prions avant de lire dans les Écritures. Notre Dieu, notre Père, nous t'en prions par ton Esprit, donne-nous d'entendre ta parole dans les mots de la Bible. Et ainsi nous pourrons voir et comprendre et découvrir, dans le vécu de nos rencontres, dans le tumulte des contradictions d'aujourd'hui, la réalisation de ta promesse au cœur de nos existences. Par Jésus le Christ, notre Sauveur et notre Frère, qui chemine avec nous. Amen. Nous lirons ce matin deux textes. Le premier dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, au premier chapitre. Nous lirons les versets 20 à 23 et puis ensuite... Nous lirons d'abord les versets 12 à 13 et 23 et 20 et 20 à 25. Voilà. Excusez-moi. Donc le chapitre 1 du livre de la Genèse, c'est le grand poème qui dit quelque chose à comprendre de ce qu'est la création. Dieu dit que la terre donne de la verdure, de l'herbe porteuse de semences, des arbres fruitiers qui portent sur la terre du fruit selon leur espèce et qui ont en eux leurs semences. Il en fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe porteuse de semences selon ses espèces et des arbres qui portent du fruit et qui ont en eux leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, et il y eut un matin, troisième jour. Donc plus tard, à partir du verset 20, Dieu dit que les eaux grouillent de petites bêtes, d'êtres vivants, et que les oiseaux volent au-dessus de la terre face à la voûte céleste. Dieu créa les grands monstres marins et tous les êtres vivants qui fourmillent, dont les eaux se mirent à grouiller selon leurs espèces, ainsi que tout oiseau selon ses espèces. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Il y eut un soir, il y eut un matin, cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leurs espèces, bétail, bestioles, animaux sauvages, chacun selon ses espèces. Il en fut ainsi. Dieu fit les animaux sauvages selon leurs espèces, le bétail selon son espèce et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Pour le second texte, nous lirons dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 6, les versets 26 à 34. C'est un extrait de ce qu'on appelle le sermon, le discours sur la montagne qui commence avec les béatitudes. Jésus s'adresse à la foule, aux disciples, à ses disciples qui sont rassemblés là. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne recueillent rien dans des granges, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous peut, par ses inquiétudes, rallonger tant soit peu la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Et pourtant je vous dis que même Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne le fera-t-il pas à bien plus forte raison pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger ?» ou bien « Qu'allons-nous boire ?» ou bien « De quoi allons-nous nous vêtir ?» Tout cela, c'est ce que cherchent les gens de toutes les c'est ce que les gens de toutes les nations recherchent sans relâche. Car votre Père céleste sait ce dont vous avez besoin. Cherchez d'abord le règne de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. De quoi donc, chers amis, Jésus parle-t-il en donnant l'exemple des oiseaux et des lys? Nous pourrions par exemple tenter de le comprendre avec l'aide des titres que les différentes traductions de la Bible donnent à ce passage. Par exemple, dans la version de la Bible en français courant, il y a une exhortation. Ayez confiance en Dieu. Évidemment. Mais c'est un titre qui pourrait être posé sur tellement de passages de la Bible que cela ne nous avance guère à comprendre ce que racontent les lys et les oiseaux. Dans la traduction « Parole de vie », celle qui est en français fondamentale, on trouve une affirmation assez massive. « Dieu donne tout ce qui est nécessaire à la vie ». Ce qui nous posera problème dès que nous serons sortis de ce temple. Lorsque passant dans la rue et celle aux alentours, nous verrons tant d'hommes et de femmes qui n'ont pas de ressources ni pour se nourrir, ni pour se vêtir, ni pour se loger. Sans oublier tous ceux qui manquent de soins, de sécurité ou de respect et qui en meurent. Dieu ne leur aurait-il donc rien donné? Ou peut-être ont-ils tout dilapidé? Parce que pour se retrouver ainsi démuni, il faut bien qu'il soit coupable de quelque chose quand même. Dans le prolongement de ce titre, d'autres traductions de l'évangile de Matthieu, surtout catholiques, posent en surplomb de ces versets un mot assez impressionnant, la providence. Nous pourrions alors comprendre que Dieu s'occupe de tout. Et c'est ainsi qu'est assez communément comprise la notion de providence. Reste alors qu'il faut quand même se débrouiller avec tout ce qui se passe dans le monde, ou simplement dans cette ville. Se débrouiller également avec la notion d'un Dieu forcément tout-puissant pour s'occuper de tout. Et si Dieu s'occupe de tout, c'est bien qu'il a tout prévu. Alors il n'y a plus rien à dire devant ce qui se passe. Sinon, c'est chiner quand même à trouver des explications au pourquoi de tant de malheurs et de misères, si Dieu tout-puissant s'occupe de tout. Pourquoi Dieu s'en occupe si peu ? Et à quoi sert sa toute-puissance si ce n'est pas à vaincre le mal ? Pourquoi Dieu ne met-il pas entre parenthèses les lois de la physique, de la biologie, de la physiologie pour résoudre au moins quelques-uns des nombreux désastres qui frappent les humains ? Pourquoi Dieu n'influence-t-il pas de manière un peu plus positive et bénéfique les esprits afin que les décisions et les comportements ne conduisent pas aussi souvent à des drames ou des catastrophes ? Chers amis, il faut quand même lire un peu plus que ce seul passage de l'évangile de Matthieu, par exemple le reste du discours sur la montagne, voire même tout l'évangile, pour se rendre compte que Jésus ne parle pas d'un Dieu tout-puissant. Jésus parle, et particulièrement dans ce grand discours dont est extrait le passage des lys et des oiseaux, Jésus parle d'un Dieu tout généreux, un Dieu de toute bonté, de tout amour. Et c'est-à-dire que la générosité, la bonté, l'amour ne sont soumis à aucun critère et à aucune condition. Si nous n'avons pas à nous inquiéter de quelque chose, c'est bien des limites de la bonté et de la générosité de Dieu pour nous ou pour autrui. Il n'y en a pas. Et nous n'avons pas non plus à lui transférer ces fantasmes de toute puissance qui hantent nos imaginaires pour nous rassurer de maîtriser si peu de choses dans le cours de nos existences. Un Dieu qui se manifeste dans un crucifié ne tient manifestement pas à la toute-puissance. Il nous reste alors dans nos Bibles quelques titres qui vont de l'inquiétude à les inquiétudes en passant par les soucis. Ceux qui ont décidé de ce genre de titre, les éditeurs des Bibles, pas les rédacteurs des évangiles, ceux qui ont décidé de ce genre de titre n'ont visiblement pas voulu beaucoup s'engager dans une interprétation quelle qu'elle soit. Une prudence qui peut quand même nous faire réagir, parce que comment serait-il possible de vivre sans s'inquiéter ? S'inquiéter de celles et ceux qui sont dans la rue, s'inquiéter de celles et ceux qui manquent du nécessaire, s'inquiéter de tous ceux qui vont mal. Comment habiter le monde sans s'inquiéter ? Sans entendre les inquiétudes légitimes de ceux pour qui le présent est une souffrance et de ceux pour qui l'avenir semble bouché. Et puis Jésus exhorte ses disciples, les foules, les lecteurs de l'évangile de Matthieu, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. » De quoi Jésus parle-t-il donc avec cet exemple des oiseaux et des lys ? Il demande de les observer. Alors finalement, de quoi parlent les oiseaux et les lys ? Les oiseaux ne sèment pas, ne moissonnent pas, ne remplissent pas de granges. Ça, ce sont les humains qui le font, et heureusement qu'ils le font. Les oiseaux, eux, ils volent dans le ciel, ils construisent des nids, ils mangent les insectes et les graines quand ils les trouvent. Les oiseaux font leur vie d'oiseaux. Ils font ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils savent faire, et c'est tout ce qu'ils peuvent faire finalement, voler, construire les nids, manger. Les lys, eux, poussent là où ils sont plantés, ils grandissent, ils déploient leur beauté dont ils ne savent rien, ils font leur vie de lys. Ils font ce qu'ils peuvent faire, et c'est tout ce qu'ils peuvent faire. C'est tout. Et en même temps, ajoute Jésus, tout cela a une fin. Avec le feu, la faux du moissonneur est passée et le lys est jeté dans le feu. Ou alors la sécheresse, le manque d'eau, ou une tempête un peu forte. Plus d'oiseaux, plus de lys. Un chat, un chasseur, un piège. Plus d'oiseaux. Un épandage de désherbants, de pesticides. Plus de lys. Peut-être Jésus exhorte-t-il ses disciples à vivre leur vie d'humain, comme les oiseaux vivent leur vie d'oiseau et les lys leur vie de lys. Jésus exhorte ses disciples à faire ce qu'ils peuvent faire dans le temps qui est le leur sur terre et dont ils ignorent le terme. Et ce n'est pas n'importe quoi qu'être humain. Ce n'est pas seulement se nourrir et se vêtir, ce n'est pas non plus s'inquiéter de soi au point d'en oublier ce que signifie être humain. Devant Dieu, en relation, toujours. Ce n'est pas non plus repousser à force d'accumulation la peur de manquer au point d'en oublier le partage. Regardez les oiseaux et les lys, dit Jésus. Leur durée de vie si courte, leur extrême vulnérabilité. Certes, la durée de vie de l'humain est plus longue, en moyenne. Sa vulnérabilité un peu moindre. Mais l'humain n'en est pas moins affronté à ses limites, celles de la condition humaine, le manque et la mort. La vie d'un humain, c'est d'assumer ses limites, c'est-à-dire de les reconnaître et de les accepter librement. C'est-à-dire de décider que ces limites, le manque, la mort, ne seront ni l'aimant, ni la boussole, ni le soleil, ni l'horizon de l'existence. Chercher à repousser ou à supprimer les limites dans des rêves de technique, comme ceux que promet le transhumanisme, cela fait perdre le sens de l'humanité. Chercher à nier ses limites en dévorant tout, jusqu'à ses semblables, dans une frénésie de pouvoir, de prédation, de domination, cela fait perdre le sens de l'humanité. Bien plus que les oiseaux et les lys, l'humain est conscient de sa finitude. Bien plus que les oiseaux et les lys, l'humain peut porter différentes sortes de regards sur lui-même et sur les autres humains ou les autres vivants. Bien plus que les oiseaux et les lys, l'humain peut déployer une dimension d'être particulière, la dimension spirituelle que Jésus raccorde à celui qu'il nomme le Père Céleste. Et c'est à partir de cette dimension-là que l'humain peut résister aux angoisses existentielles de manque et de mort. Pour ceux qui reconnaissent en Jésus de Nazareth le Christ de Dieu, cette résistance porte le nom de Pâques. Et c'est plus qu'une résistance, puisque c'est une victoire. La victoire sur la mort célébrée lors des cultes chaque dimanche aujourd'hui, pas seulement une fois par an le jour de Pâques. La victoire sur la mort, ce n'est pas la fin de la mort. Ce n'est pas l'élimination de la mort. La victoire sur la mort, c'est la fin de la vie dominée par la peur de la mort. C'est la fin de la vie comprise comme la poursuite d'un gain ou d'une proie qui serait la fin de la mort. La victoire sur la mort, c'est la fin de la vie vécue comme la fuite du manque. C'est la fin de la vie dominée par l'inquiétude de soi, au profit de l'existence vécue comme quête de justice, service d'autrui, sobriété volontaire, confiance. De quoi Jésus parle-t-il donc ? En donnant l'exemple des oiseaux et des lys. Dans l'écho du premier chapitre du livre de la Genèse que nous avons entendu, se lève un mot que toute évocation et toute contemplation de la terre, des lys, des oiseaux, de la nature, des vivants, plantes et animaux, ce mot peut résonner avec force et clarté. Dieu vit que cela était bon. Le poème de Genèse 1 n'apporte pas une information sur la construction physique de la planète et des espèces vivantes. Il n'apporte pas non plus une explication métaphysique surplombant toute possibilité de penser et d'agir. Mais pour l'être humain qui entre dans le mouvement de la création, création qui n'est pas achevée, qui n'est pas une explication de ce qu'il y a, du pourquoi de ce qui est là, le poème souffle inlassablement et très doucement, sans tonitruer, un appel à comprendre la vie, toute vie, comme féconde, bonne, sensée. Dieu n'est pas une explication, mais un appel pour donner sens, pour interpréter le fait d'être vivant, interpréter la vie, pas n'importe quelle vie, moi la mienne, vous la vôtre, chacun la sienne, interpréter le fait d'être vivant. Et la parole qui donne sens dit « bon ». Bon, le ciel, la mer et la terre ferme. Bon, le foisonnement des espèces végétales et animales. Entrer dans la création, c'est déchiffrer cette inscription de bon, de bonté, sur tout vivant, et y répondre d'un oui, d'un d'accord, d'un c'est vrai, amen, par lequel l'existence s'oriente en reconnaissance et en gratitude. Et alors, la quête de la justice participe profondément, intrinsèquement, à la mise en forme, en parole et en acte, de la réponse de l'humain à ce « bon » qui appelle à vivre, à comprendre. Alors, regarder les oiseaux et les lys, c'est regarder ce qui ne compte pas, ce qui n'évolue dans aucun système, aucune logique de prix à payer, d'échanges à équilibrer, évoluer dans ce qui est gratuit. Regarder les oiseaux et les lys, c'est percevoir un éclat de ce royaume qui contredit les manières de vivre du monde et qui rend possible, seulement possible puisque Dieu n'est pas tout-puissant, qui rend possible une autre interprétation de l'existence, une autre manière de vivre. Bon, bon, très bon même, souffle le poème, souffle les lys et les oiseaux. Alors oui, à chaque jour suffit sa peine, car il y a de la peine chaque jour. Mais chaque jour est aussi celui où discerner le bon, pour ne pas en rajouter à la peine de chaque jour, à la peine du jour, et répondre ainsi à l'appel de Dieu, l'appel qui est Dieu, l'appel de Jésus-Christ, l'appel à vivre avec courage et avec passion et avec bonté. Car oui, vraiment, cela est bon. Vous les avez entendus, les oiseaux ? Et le ruisseau qui coule ? Et le bruissement du vent dans les branches ? Vous les avez vus, les lys ? Merci, Freddy. Entre le partage de la parole et le partage du pain, nous confessons notre foi. Je vous invite à vous lever. Nous croyons en Dieu, puissance de vie, d'amour et d'être, élan créateur qui traverse tout l'univers. Nous croyons en Jésus-Christ qui a révélé cette présence de Dieu auprès de tous les humains, révélé sa compassion, sa puissance de vie, d'amour et d'être. Jésus-Christ a lutté pour l'amour et pour la justice jusqu'à y perdre la vie. Nous croyons que nous pouvons nous aussi être animés par l'Esprit créateur, marchant d'un même pas, vivant ainsi pleinement, aimant de tout notre cœur, engagé dans la vie de l'humanité et unis à l'élan créateur qui traverse tout l'univers.
Louons Dieu. Notre Dieu, nous te louons d'être rassemblés pour ce repas que Jésus le Christ a voulu pour nous, que nous recevions la confiance, la joie, la vie en abondance. Nous te bénissons de nourrir notre foi et notre existence avant de nous envoyer dans le monde pour y être témoins de ta bonté et de ta fidélité. Aussi, avec tous celles et tous ceux que tu as appelés en tout temps et en tout lieu, nous célébrons ton nom et nous chantons. Et je vous propose de chanter le cantique 231, les strophes 1 et 2.
Le soir où Jésus a été livré, il a pris du pain. Il l'a donné à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps donné pour vous. » De même, Jésus a pris la coupe et après avoir rendu grâce, il l'a donné à ses disciples en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Il est versé pour la rémission des péchés. En vérité, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. »
nous prions. Nous venons à toi, Dieu de Jésus-Christ, Dieu de générosité. Nous nous ouvrons à toi, Saint-Esprit du Dieu de bonté. Qu'avec ce pain et ce vin, ce soit ta vie qui monte en nous. Nourris-nous de la vérité de ton espérance et unis-nous dans ta paix. Notre Dieu, nous te remercions pour toute la lumière, la grâce et la vie dont nous avons fait l'expérience dans nos existences. Nous te prions aussi, libère-nous de l'étroitesse d'esprit et de l'autosatisfaction. Donne-nous d'accueillir et d'entrer dans l'élargissement d'être que tu nous offres, de résister aux multiples visages de la peur et de cheminer en simplicité de cœur et d'esprit. Ouvre nos yeux, nos intelligences et nos cœurs pour que nous reconnaissions l'œuvre de ton esprit parmi d'autres personnes et sous d'autres formes que celles que nous connaissons. Rappelle-nous toujours que tu es notre Père à tous et encourage-nous dans le service de ceux que tu nous appelles à aimer. Souffle en ceux qui sont en position d'autorité la sagesse de bien gouverner et la grâce de reconnaître que rien n'est solide qui ne soit pas juste, et que ce qui est juste, c'est de rechercher ce qui est bon pour tous. Par ta parole, éveille toujours notre conscience à la responsabilité de préserver la création et de faire place aux générations qui viennent. Que ton esprit de communion engage tout notre cœur dans la prière que Jésus-Christ a enseignée à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.
Heureux les invités au repas des vivants, et nous sommes tous invités. Voici le pain et le vin, signe de la vie donnée et reçue en Jésus-Christ. Voici le repas, la scène, qui ouvre en nous des chemins de justice et de paix, par Jésus-Christ notre Sauveur et notre Frère. Alors venez, car tout est prêt. Et celles et ceux qui ne souhaitent pas prendre le pain et le vin pourront simplement faire passer le plat et la coupe à leurs voisins. C'est juste un geste d'humanité. Venez. Cette table, c'est le Christ vivant qui la préside. Nous, nous sommes tous, frères et sœurs, à égalité d'un même niveau. Alors, avant de communier, je vous invite à saluer celui qui est à votre droite, celui qui est à votre gauche, à vous enquérir de son nom si vous ne le connaissez pas pour ne pas communier avec des anonymes.
Nous rompons le pain Il est la communion au corps du Christ, à sa vie donnée. Cela signifie que pour nous, le Christ vivant met en nous sa vie pour que notre vie devienne sienne. Et nous disons merci pour la coupe. Elle est la communion au sang du Christ, sa vie donnée pour nous. Cela signifie que par une alliance sans cesse renouvelée, Jésus-Christ fait couler en nous sa vie comme un sang nouveau, comme un vin de fête, pour que notre vie devienne sienne dans l'espérance et dans l'amour.
Thank you.
Notre Dieu, tu nous as nourris d'un pain de liberté, qu'il soit notre force pour la route, qu'il soit la joie de notre cœur, par Jésus le Christ vivant pour nous, pour toujours. Amen.
Vous pouvez regagner vos places dans la joie du Christ vivant.
Notre partage, celui des annonces. Valérie m'indique de partager un événement qui s'est passé hier. Hier, il y a eu un séminaire du Conseil presbytéral. Nous nous sommes réunis à l'Institut protestant de théologie à Paris, qui est un lieu absolument magnifique que je vous invite à aller découvrir aujourd'hui, journée du patrimoine. C'est ouvert et il y a une magnifique exposition sur les jardins dans le hall. Et ne manquez pas les jardins de l'Institut protestant de théologie. Mais hier, donc, nous y avons travaillé, en bénéficiant cependant de la beauté du lieu. Et nous y avons travaillé, nous avons parlé, nous avons mangé ensemble, et cela est important aussi. Ça a été une belle journée qui a ouvert, je crois, des perspectives pour le conseil, pour la paroisse. Nous vous en parlerons dans les temps qui viennent. Et ça a été vraiment un moment de communion, allez, avant aujourd'hui. Pour aujourd'hui, après ce culte, il y aura un repas. Certains ont apporté quelque chose à répartir pour que tous soient nourris. Alors si vous n'avez rien apporté, eh bien ne craignez pas de venir. Il y aura de la place et il y aura de quoi manger. Ce sera aussi un moment avec d'amitié et plein de bonnes choses à se donner et à partager. Cette semaine va reprendre la lecture biblique du soir. Mercredi à 19h30, et le groupe a choisi et entrera donc dans la découverte et la lecture du livre du prophète Ésaïe. On n'ira pas tout, hein, c'est trop long, quelques passages choisis. Et donc mercredi soir, ce sera l'introduction et la découverte d'un premier texte du livre du prophète Ésaïe. Ce groupe est largement ouvert, donc n'hésitez pas à venir si cette lecture, la discussion vous intéresse. Jeudi 26, c'est le groupe œcuménique qui se réunira à 19h, les deux groupes dans la salle du deuxième. Et puis dimanche 29, la prédication sera portée par Valérie à 10h30, bien sûr. Ce sera aussi dimanche 19, le culte d'accueil de la pasteur Agnès Adeline Schaeffer au Temple de l'Oratoire. La paroisse y sera représentée officiellement par Jean-Paul Augier, mais il y aura peut-être d'autres personnes. Alors, il y a des annonces que d'autres personnes vont dire. Il y en a plus. Venez au micro et puis... vous serez mieux entendu.
Bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis Christophe Varret. Je suis en conseiller de groupe local des EUDF, donc des éclaireuses unionistes de France, du groupe FSA, donc Faubourg Saint-Antoine, qui est ici implanté au Foyer de l'Âme et aussi à Béthanie. Donc au Foyer de l'Âme, il y a une cinquantaine d'enfants, on accueille une cinquantaine d'enfants cette année dans l'activité des scouts, et on remercie beaucoup la paroisse du Foyer de l'Âme de nous accueillir dans leurs locaux, de nous permettre de stocker le matériel et d'offrir des locaux pour les activités des enfants. Donc voilà, donc, je ne sais pas si vous connaissez les éclaireurs avec les unionistes de France, mais c'est un mouvement d'obédience d'origine protestante qui est ouvert à tous. On on a un projet de développement pour les enfants, pour les amener à devenir des adultes autonomes, solidaires, respectueux de l'environnement, donc autour d'activités dans la nature, de camps qu'on organise l'été, d'une dizaine de week-ends qu'on organise chaque mois en les emmenant camper. Donc ce week-end, ils campent à Aury-la-Ville, par exemple, tous ensemble. Voilà, donc c'est des enfants de 8 à 18 ans. Donc on trouve ça un très beau projet et on voulait remercier la paroisse de l'accueillir. Voilà, pour vous dire que donc, cette saison, ça repart de nouveau. Donc on est intégralement, on s'appuie intégralement sur des bénévoles. Donc on a une dizaine de responsables. Et je voulais passer le message qu'on cherche des responsables. En fait, on cherche en permanence des responsables bénévoles, des responsables qui nous accompagnent toute l'année. Enfin, c'est une dizaine de week-ends dans l'année et puis qui participent au camp. C'est des responsables qu'on accompagne, qui sont formés par les EUDF, qui est un organisme qui est reconnu par la jeunesse et sport, donc qui est habilité à donner des formations de BAFA d'animateurs et de directeurs de camp, donc pour ceux qui font tout ce plan de progression jusque-là. Et je pense que ça, on fait aussi il est parti du projet éducatif aussi de former ces jeunes adultes à l'encadrement d'enfants. Je pense que ça leur apprend beaucoup de choses pour la suite de leur existence professionnelle. C'est par ailleurs très reconnu d'un point de vue professionnel, ce type d'expérience. Donc ce que je voulais dire, c'est que si vous connaissez des jeunes de 18